VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, édition du 23 janvier 2017. Au sommaire ce soir, la transition en Gambie, où la sécurisation se poursuit pour faciliter le retour du président Adama Barrow, qui a prêté serment au Sénégal. Les mouvements sociaux du secteur public se poursuivent en Côte d'Ivoire, où des négociations sont prévues demain. Les autorités burundaises ont libéré 300 prisonniers, un geste salué par la société civile qui appelle toutefois à une relaxe de plus de 4000 détenus politiques. Au Cameroun, les cours n'ont quasiment pas repris ce lundi dans les zones anglophones où les autonomistes ont appelé à 3 journées ville morte. Et dans l'actualité internationale, nous reviendrons notamment sur les tout premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Et bien sûr, le journal de la CAN, Tunisiens et Algériens s'affrontent à distance pour une place en quart de finale, mais avant tout, le journal. Suite de la Coupe d'Afrique des Nations, hein, ce soir, Nicolas, les matchs du groupe B, n'est-ce pas ?
Eh oui, le Sénégal déjà qualifié qui affronte les Fennecs qui doivent absolument l'emporter. Ce sera à Franceville. Quant à Libreville qui accueille le match entre les Aigles de Carthage, les Tunisiens en ballotage favorable face au Zimbabwe. Coup d'envoi de ces deux matchs à 19h, temps universel.
Merci Nicolas, on vous retrouve après les nouvelles dans le journal de la CAN et à 19h, temps universel dans Sporama. Au lendemain de l'exil du président sortant Yahya Jammeh en Guinée équatoriale, la Gambie attend toujours le retour du nouveau président à Banjul, Adama Barrow, qui a prêté serment à l'ambassade gambienne à Dakar le 19 janvier, Arzuma Compaoré.
Selon un porte-parole du président Barrow, le président rentrera dès que possible. Une inspection de la capitale Banjul lundi doit déterminer si la sécurité est adéquate pour le retour en toute sécurité de M. Barrow. Parmi les chefs des services de sécurité du pays, le chef de l'armée, le général Ousmane Badji, a déjà affirmé ce lundi avoir prêté allégeance à M. Barrow le jour de son investiture. La police, ou encore la très redoutée Agence nationale du renseignement, NIA, n'a pas encore fait de déclaration publique. Dans une interview accordée à la VOA, le président Barrow a dit vouloir mettre sur pied une commission Vérité et Réconciliation pour permettre au peuple de connaître la vérité. « Nous voulons mettre en place une très bonne base pour la démocratie et aussi de solides piliers pour la démocratie où les termes sont limités. Les présidents seront toujours très prudents. Nous éviterons ce qui est arrivé avec Yahya Jammeh, étant ici depuis 22 ans et qui n'a jamais voulu quitter le pouvoir. » Barrow a dit que même s'il a beaucoup à faire pour amener la Gambie dans la communauté des nations, la première chose qu'il voudrait accomplir dans les 100 premiers jours de son administration est de mettre sur pied un groupe de réflexion d'experts gambiens pour préparer un plan pour son gouvernement.
La grogne des fonctionnaires ivoiriens continue malgré l'annonce des dirigeants syndicaux invitant à la reprise aujourd'hui. Des mouvements sociaux se sont déroulés ce lundi dans plusieurs villes. À Abidjan, des gendarmes et pompiers avaient bloqué des routes, tandis que des centaines d'étudiants ont manifesté à Boaké. Notre correspondant sur place, Narita Namasté.
Les fonctionnaires, malgré cet appel, maintiennent toujours la pression en poursuivant la grève jusqu'au vendredi 27 janvier. Comme décidé par l'Assemblée générale tenue le samedi dernier. Des responsables syndicaux, joints par téléphone, affirment que leurs camarades leaders ont été séquestrés et contraints à lever le mot d'ordre des grèves enclenché depuis le 9 janvier dernier. Sur la page Facebook de l'intersyndicale, on lit « Camarades, la grève continue ». À Mans, dans l'Ouest ivoirien, les locaux de la télévision nationale ont été saccagés par des élèves qui réclament la reprise des cours. D'autre part, des sapeurs-pompiers civils, tous des ex-combattants, sont descendus dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. 18 d'entre eux ont été interpellés et conduits à la préfecture de police d'Abidjan. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Le Burundi a entamé la libération du quart de sa population carcérale dans le cadre d'une grâce présidentielle. Ce lundi, un premier groupe de 300 prisonniers a été libéré de la prison centrale de Mpimba à Bujumbura. À terme, 2500 détenus sont concernés par cette mesure. Ce premier groupe inclut 58 militants arrêtés lors d'une manifestation interdite et réprimée par la police le 9 avril 2014. Le geste a été salué par la société civile civile qui a toutefois appelé à une relaxe de plus de 4000 détenus politiques. Au Niger, le président du syndicat des commerçants, importateurs et exportateurs, Sani Tchekaro, a été relaxé ce matin. Il avait été arrêté pour provocation d'attroupement non armé, suivi des faits au lendemain d'une marche de la société civile en décembre dernier. Dans les régions anglophones du Cameroun, des tracts appelant à 3 journées ville morte ont été distribués aux populations. Aucune école ne devrait reprendre dans ces régions, car quiconque le fait met en danger sa vie et celle de ses enfants, ont menacé les militants autonomistes. Les cours suspendus depuis des mois dans les régions anglophones par des appels à la grève n'ont donc pas totalement repris ce lundi, en dépit des assurances du gouvernement sur la sécurité. À Bamenda, les activités sont quasiment paralysés et peu d'élèves se sont rendus dans les établissements selon des habitants et enseignants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a commencé sa tournée en Afrique de l'Est par la Tanzanie et se rendra ensuite au Mozambique et à Madagascar. La priorité de cette tournée est de chercher des soutiens pour dénoncer les activités de Fethullah Gulen, qu'il accuse d'avoir ourdi le putsch manqué en juillet dernier. Et ici à Washington, cette semaine est la première du président Donald Trump. De l'immigration à l'énergie en passant par la diplomatie, M. Trump multiplie les décrets et les initiatives. Anastasie Tudiech.
Donald Trump a reçu ce matin 12 chefs d'entreprise à la Maison-Blanche, leur promettant des baisses massives d'impôts et une réduction de 75% de la réglementation, tout en assurant que la sécurité des employés et la protection de l'environnement seraient garanties, sans préciser comment. C'est ce lundi également que le président a signé un décret mettant fin à la participation des États-Unis au traité de libre-échange transpacifique. Négocié pendant des années par l'administration Obama et vu comme un contrepoids à l'influence grandissante de la Chine, le traité avait été signé en 2015, mais n'était pas encore entré en vigueur. Le programme DACA, mis en place par Barack Obama en 2012 et qui a permis à plus de 750 000 clandestins arrivés jeunes sur le territoire d'obtenir des permis de séjour et de travail, pourrait également être remis en cause, ainsi que l'allocation des fonds destinés à la lutte contre le changement climatique.
Par ailleurs, 2 autres membres de l'équipe gouvernementale de Donald Trump devraient être confirmés dans leur poste cette semaine. Il s'agit de Mike Pompeo à la CIA et du patron d'ExxonMobil Rex Tillerson au département d'État. Ce dernier a obtenu ce week-end le soutien public de l'influent sénateur de l'Arizona John McCain, ainsi que celui des sénateurs de Caroline du Sud et Floride Lindsey Graham et Marco Rubio, en dépit de leurs doutes sur certains aspects de sa carrière. Fin de la première journée des pourparlers de paix sur la Syrie à Astana, au Kazakhstan, sans avancée apparente. Ces négociations entre émissaires de Bachar al-Assad et représentants des rebelles interviennent en dépit du refus de dernière minute des rebelles de négocier en face à face avec le régime syrien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au journal de la CAN avec Nicolas Pineau.
Bonsoir à tous. Le verdict va être rendu ce lundi dans le groupe B. Le Sénégal, déjà qualifié leader assuré de la poule, joue sans pression ce soir à Franceville face à des Fennecs algériens qui sont en bien mauvaise posture. L'Algérie doit impérativement l'emporter et espérer une contre-performance à Libreville de la Tunisie face au Zimbabwe. On retrouve tout de suite sur place à Franceville Amdine Sy pour VOA Afrique. Alors Amédine, les Lions de la Teranga, je le disais, jouent sans pression.
Tout à fait, Nicolas Pino. Les Lions de la Teranga qui vont jouer sans pression parce qu'ils ont déjà le ticket des quarts de finale en poche, mais c'est le gâteau. Ils vont rester à Franceville parce qu'ils sont premiers. Donc, ils vont jouer contre les Fenech sans pression. Aliou Cissé va en profiter pour faire tourner son effectif. C'est normal parce qu'il y a des joueurs qui sont menacés de disparition, des joueurs comme Karamoy, comme Kalidou Koulibaly et comme Cheikh Kouyaté. Ils ont déjà un carton jaune. Il va certainement les mettre sur le banc pour éviter un deuxième carton synonyme de suspension. Donc ce match, ils vont l'aborder dans la plus belle des manières pour pouvoir faire un parcours sans faute, Nicolas Pineau. C'était Hamid Inti depuis le stade de Franceville pour VOAfrique.
Direction Libreville à présent pour parler des Aigles de Carthage qui sont en ballottage favorable ce soir pour accéder au quart de finale. La Tunisie affrontera le Zimbabwe et l'on retrouve sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique sur cette CAN, Timothée de Dangmaï. Timothée, les Tunisiens y sont presque.
Et oui, Nico, la Tunisie en ballottage favorable pourrait, face au Zimbabwe, se contenter d'un nul pour avancer dans ce groupe. Et donc, c'est une position qui est très bonne pour les Aigles de Carthage. Alors, les Warriors ont un point. Ils sont dans une posture très difficile. Mais bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec eux. On les a vus très entreprenants contre l'Algérie, à qui ils ont arraché un nul. Il n'est pas exclu que les Warriors aient un sursaut d'honneur et qu'ils puissent, même s'il faut partir sur une bonne note. Timothée de Langmaï, CAN 2017, Libreville, VOA Afrique.
On rappelle que le Gabon a quitté la compétition hier à Libreville devant son public. Le pays organisateur n'a pas fait mieux que match nul 0-0 face aux Lions indomptables. Trois petits matchs et puis s'en vont. Les Panthères pourront nourrir des regrets. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonsoir. La première sensation de la CAN nous vient de la poule A à Libreville, où les Lions indomptables du Cameroun viennent d'éliminer le pays organisateur, le Gabon, dans un match d'une intensité passionnelle particulière. Le Gabon, qui se devait de gagner pour poursuivre son aventure, a buté sur une équipe camerounaise jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle évolue dans un contexte hostile. La stupeur et le désarroi qu'accompagnent cette défaite n'ont d'égal que l'espoir qui a animé le nombreux publics pour une fois acquis à l'équipe nationale depuis le début de la compétition. Eut égard à la détermination du monde du football gabonais à chacune des sorties de la sélection contre le grand voisin camerounais. Après un match engagé et intense que le Gabon a bien failli enlever dans le temps additionnel, la sentence est tombée. Comme en 1976, 82 et 94, le pays organisateur sort dès la phase des poules, soulevant le problème connexe de la fréquentation des stades pour la suite de la compétition. Au passage, une tête de série est sortie et deux autres sont en sursis. La fête prend une nouvelle dimension. À demain.
On parle à présent des matchs du groupe C, République démocratique du Congo face au Togo. C'est l'une des affiches de la dernière journée du premier tour dans le groupe. Si pour les Léopards, leader du groupe avec 4 points, un nul suffit demain pour se qualifier, les Éperviers devront impérativement l'emporter. Les détails sur place avec Thierry Kambundi à Port-Gentil pour Top Kogo FM, notre partenaire.
Alors qu'il leur suffit d'un simple nul pour valider leur qualification pour les quarts de finale, les Léopards veulent absolument gagner le match de ce mardi contre les Éperviers du Togo afin d'éviter toute mauvaise surprise. Florent Ibengue.
C'était un match décisif. On sait qu'avec un nul, on est qualifié, mais on ne va pas penser à ça. On va rentrer sur le terrain avec l'envie de gagner.
Vous avez vu le Togo par deux fois. Comment battre cette équipe?
En jouant. Il faut qu'on joue, qu'on reste nous-mêmes, solides derrière, créatifs au milieu. Et puis décidés et réalistes devant.
Les Togolais, eux, après un nul et une défaite, n'ont pas une autre alternative que de s'imposer pour passer. Claude Leroy l'a dit ce lundi à Port-Gentil.
C'est notre dernière chance. On sait que la seule façon de nous qualifier pour les quarts de finale, c'est de gagner contre la RDC. Maintenant, on sait que la qualité de cette équipe, sa puissance athlétique, ce qu'ils ont montré contre la Côte d'Ivoire, mais bon, on sait très bien que Bakananga, Mbokane, la vitesse de Goubélé, je crois qu'on a complètement décrypté cette équipe, on la connaît bien, on va essayer de brouiller les cartes et de faire un gros match.
Port Gentil, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, joue à elle face au Maroc. Malheur au vaincu dans ce match. C'est la fin de ce journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Nouveau rendez-vous ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dilidico.
Les 400 salariés de Shell Gabon ont repris le travail suite à une grève entamée le 12 janvier pour obtenir des garanties et des indemnisations dans un contexte d'inquiétude sur la vente d'une partie des actifs de la société Shell Gabon. L'Organisation gabonaise des employés du pétrole a indiqué qu'un accord a été conclu avec la direction suite à la médiation du gouvernement. Shell, un des deux opérateurs historiques au Gabon, serait sur le point de vendre sa filiale gabonaise au fonds d'investissement américain Carlyle. La Guinée-Bissau veut rejoindre l'OPEP. Malabo en a fait l'annonce ce lundi par la voix de son ministre de l'Énergie. Si la Guinée équatoriale voit sa candidature retenue, elle deviendrait le sixième pays africain à intégrer l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La Guinée équatoriale est le troisième producteur de pétrole en Afrique. La Banque islamique de développement effectue actuellement une tournée ouest-africaine riche en accords financiers. Son vice-président, Mansour Moutar, débute aujourd'hui sa visite au Sénégal et en Guinée où il prévoit de signer des accords de financement pour un total d'environ 300 millions de dollars. À Dakar, la Banque islamique de développement et le Sénégal ont signé ce matin quatre accords d'une valeur de 92 millions de dollars.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui de VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter maintenant les dossiers du jour. La Gambie a connu un week-end mouvementé avec de longues négociations dites de la dernière chance qui ont permis à Yahya Jammé de s'exiler en Guinée équatoriale en passant par Conakry. Le président guinéen Alpha Condé est allé chercher l'ex-dirigeant gambien à Banjul et un document accordant un certain nombre de garanties a été publié par la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Mais le président Adama Barrow a déclaré qu'il n'accordait aucune garantie à M. Jammé et tant que l'Assemblée nationale ne se serait pas prononcée. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Conakry Mohamed Condé, rédacteur en chef de la radio Soleil FM.
Je pense que c'est un succès pour la diplomatie guinéenne. Il faut se réjouir parce que la Gambie, quand même, est un pays CEDEAO, c'est un pays membre de la CEDEAO. Il faut éviter le pire Gambie. Mais il fallait trouver une solution pour le faire partir. Alors, si on a pu éviter une telle crise à la Gambie, je ne sais que me réjouir.
Le président guinéen Alpha Condé a joué un rôle important en Gambie. Mais certains pensent que l'accord qui a permis à Yahya Jammé de partir en Guinée équatoriale est trop généreux, qu'il est parti avec beaucoup trop de garanties. Est-ce que vous êtes d'accord?
Yahya Jammé voulait des garanties, il était prêt, mais il voulait une certaine garantie pour le permettre de quitter. Alors, si la paix dépendait de ces garanties-là, je pense bien que ce n'est pas aussi grave, en tout cas, à mon point de vue, ce n'est pas aussi grave que Yahya Jammé puisse partir avec toutes les garanties. Bien entendu, dans les temps à venir, si on peut appeler Yahya Jammé pour lui demander un certain nombre de comptes, il y a aussi ce détail-là. Mais je pense que pour le moment, il fallait lui accorder ces garanties-là, permettre au président élu Adama Barrow de diriger le pays. Alors, si ce cas de figure n'existait pas, je pense que la crise demeurerait.
Mais quand on entend le président Adama Barrow dire qu'il n'a pas été consulté pour cet accord et qu'il ne se sent pas engagé pour l'instant, est-ce qu'on n'a pas des raisons quand même de s'inquiéter?
Adama Barrow, je le dis, il a commis, je ne dis pas que c'est vrai qu'il n'a pas d'expérience, c'est vrai, et dans la présidence, on peut acquérir de l'expérience, mais Adama Barrow, quelque part, il a forgé cette crise. On connaît des dirigeants africains qui ne se sont pas inscrits dans la même logique que Yahya Jammé. Et c'est ça que les gens oublient. Adama Barrow devrait tenir compte de cela.
Donc pour vous, il faut maintenant un discours d'apaisement alors?
Ah oui, il doit tenir un discours d'apaisement. Et quand j'ai entendu dire que 22 ans c'est trop long et que maintenant il faut construire une nouvelle Gambie, une Gambie unifiée, c'est très bien, c'est très bien. Mais il faudrait bien qu'il pose des actes, parce que quoi qu'on dise, Yahya Jammeh a des fidèles, hein, il a des militants, il a des partisans qui croient en lui.
Mohamed Condé, le rédacteur en chef de la radio Soleil FM à Conakry. Plus de 300 prisonniers, dont 58 militants du parti d'opposition MSD d'Alexis Sindouidje, viennent d'être libérés de la prison centrale de Mpimba à Bujumbura, au Burundi, dans le cadre d'une grâce présidentielle. 2500 détenus sont concernés par cette mesure qui a été saluée par les associations de défense des droits humains. La société civile demande toutefois que la mesure s'étende aux jeunes qui ont été arrêtés après le putsch manqué du 13 mai 2015. Un reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
La joie se lisait sur les filles, femmes et jeunes hommes qui venaient de passer presque 2 ans dans la principale prison de Bujumbura, Mpimba, dans les quartiers de Musaga au sud de la capitale. Certains avaient été arrêtés le 8 mars 2014 alors qu'ils étaient en réunion dans leur permanence nationale. Ce jeune homme, surnommé Moto, est parmi les 300 personnes libérées. Il ne cache pas sa joie mais demande que la grâce présidentielle s'étende à d'autres prisonniers qui sont plus de 10 000 dans les différentes geôles du Burundi.
Je suis très content de la grâce présidentielle qui vient de nous libérer, de nous pardonner. Nous étions innocents. Nous sommes très contents. Mais nous avons des frères qui ont été incarcérés pendant les manifestations d'avril 2015. On les a traités de rebelles qui ont attaqué des camps alors que ce n'est pas vrai. On demande au président de la République de les libérer. Il y a beaucoup de prisonniers politiques dans cette prison de Mpimba. On ne peut pas les laisser dans cette prison. On demande leur libération et construire ainsi notre pays avec ceux qui sont en exil une fois de retour dans leur patrie.
Une fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB en sigle, demande qu'il faut désengorger les prisons en libérant plus de mineurs. Jacques Chimimana, président de la fédération.
C'est une mesure que nous avons bien accueillie au niveau de la société civile et plus particulièrement au niveau des défenseurs des droits de l'enfant. La mesure de mettre dans la prison une personne devrait être une mesure de dernier recours. Il y en a ceux qui deviennent plus radicaux qu'avant. La plupart des mineurs qu'on emprisonne, ce sont des élèves. Et quand on les emprisonne, ils abandonnent le corps. Et quand ils abandonnent le corps, ils apprennent d'autres vices ignominiés.
La ministre de la Justice, Léontine Kanyana, indique que pour la première fois, cette grâce présidentielle concerne des crimes imprescriptibles, comme ceux des membres du parti Mouvement pour la solidarité et du développement de l'opposant Alexis Sindouidje.
Si on parle de crimes imprescriptibles, vous comprenez qu'il s'agit des crimes pour lesquels aucun pardon ne peut être accordé. Mais le président de la République, il a le droit de prendre une mesure pour cette catégorie de personnes. Mais comprenez que c'est une mesure qui doit faire objet d'une analyse minutieuse. Le président de la République a jugé utile de promouvoir la réconciliation nationale.
13 prisons du Burundi qui ont une capacité d'accueil de plus de 4000 détenus contenaient l'année 2016 une population pénitentiaire de presque 10 000 personnes, soit plus de la moitié. Les prisons de Mpimba, Gitega, Muramvya, Ngozi et Ruyigi viennent en tête de liste, avec même 3 fois plus que leur capacité d'accueil. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le sommet de l'Union africaine aura lieu à Addis Abeba les 30 et 31 janvier prochains. Mais le comité des représentants permanents des pays membres a débuté ses travaux hier après-midi. Crise politique en Gambie, Côte d'Ivoire et Cameroun, retour au Maroc au sein de l'organisation panafricaine. Les sujets à être abordés ne manqueront pas, comme le rappelle l'analyste politique Gilles Yabi, joint par Claire Moragibour.
Je crois que ce sommet va être sans doute dominé par des sujets plutôt institutionnels relatifs à l'organisation elle-même, puisque un des sujet à l'ordre du jour, c'est l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, donc la personne qui va succéder à Dlamini Zuma. Et c'est évidemment une élection qui suscite toujours beaucoup d'intérêt et qui, cette année, est beaucoup plus ouverte peut-être que d'habitude. Et donc, il y aura sans doute beaucoup d'attention sur cette élection. Et l'autre sujet, enfin, un sujet lié à l'élection de la présidence, c'est aussi évidemment l'élection d'un certain nombre de commissaires et c'est aussi un élément important, en particulier pour la paix et la sécurité. Au-delà de ces sujets, relatifs à l'organisation, on va sans doute avoir aussi un retour sur la question du financement de l'Union africaine. Là aussi, le président Kagame qui avait été mandaté pour faire des propositions précises pour qu'il y ait une Union africaine davantage financée par l'Afrique que par des partenaires extérieurs. Et c'est sans doute un sujet qui va revenir aussi lors de ce sommet. Il y a d'autres sujets politiques qui vont être abordés, notamment lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité. Donc c'est toujours l'occasion d'aborder les différentes crises sur le continent.
Qu'en est-il de l'adhésion du Maroc ? Certains avancent que ce ne serait qu'une formalité.
Alors, je ne sais pas si ce sera une formalité, mais il semblerait tout de même que cela a été préparé. Et le Maroc est un pays important du continent et je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir le Maroc qui réintègre la famille de l'Union africaine, même si évidemment, on voit bien que les tensions, notamment avec l'Algérie, sont toujours là et sont toujours vives. Et cela va changer la donne, l'entrée du Maroc au sein de l'Union africaine et sans doute dans le sens peut-être d'une sorte de rééquilibrage du pouvoir entre les grands pays qui jusque-là était dominant, et évidemment dans l'Algérie. Et là, il va y avoir un autre gros pays avec des moyens assez importants qui entre dans l'Union africaine. Donc cela va sans doute être largement discuté et va avoir des conséquences, y compris dans peut-être les élections qui sont prévues, probablement une volonté de faire en sorte que malgré tout, le Maroc n'entre pas trop fort dans l'Union africaine et n'ait pas nécessairement beaucoup de pouvoir de décision.
Gilles Yabi, analyste politique et fondateur du think tank citoyen Wati. À l'île Maurice, l'opposition et la société civile crient au scandale. Sir Arnerud Younot a démissionné de son poste de Premier ministre pour passer le flambeau à son fils Pravind Younot. L'opposition réclame de nouvelles élections. Jacques Aristide, qu'en est-il de cette polémique exactement ?
Eh bien, il s'agit d'une situation inédite, car jusqu'à présent, et ce depuis l'accession de Maurice à l'indépendance en 1968, jamais un fils n'a directement succédé à son père dans le fauteuil de Premier ministre, même si ce même poste n'a été occupé après élection que par deux familles, les Ramgoolam et les Jugnauth. Les dernières élections ont eu lieu en 2014, et c'est Sir Arnerud Jugnauth qui s'était présenté comme candidat au poste de Premier ministre pour le mandat de 5 ans, et non pas son fils Pravind Jugnauth. Aujourd'hui, âgé de 86 ans, Arnerud Jugnauth a cumulé des mandats de Premier ministre totalisant 16 années et un mandat de président entre 2003 et 2012. Il affirme qu'il est fatigué et veut s'occuper de sa santé, même s'il va continuer à occuper un poste ministériel dans le nouveau cabinet annoncé par son fils aujourd'hui même, Pravind Jugnauth, qui est avocat de formation comme son père et qui est lui âgé de 55 ans. Toutefois, la majorité des Mauriciens sont contre cette transition père-fils. Un dernier sondage indique que plus de 7 personnes sur 10 estiment que Pravind Jugnauth devrait passer par les urnes avant d'accéder au poste de Premier ministre.
Et que compte faire donc l'opposition mauricienne ?
Eh bien, l'opposition dénonce ce qu'elle appelle une passation de pouvoir dynastique et antidémocratique, car pour elle, si Pravind Jugnauth avait été présenté comme Premier ministre en novembre 2014, les résultats n'auraient pas été les mêmes. L'opposant historique Paul Béranger parle de népotisme au sommet de l'État. Il a appelé un mouvement de contestation de cette transition familiale. Béranger a annoncé la possibilité d'une démission collective des députés de l'opposition. Mais s'il y a effectivement un accord entre les partis de l'opposition pour démissionner collectivement du Parlement, il n'y aurait alors aucun doute sur une pression qui sera exercée pour des élections générales. De leur côté, les partisans et membres du parti au pouvoir, le MSM, applaudissent cette nouvelle configuration politique. La coalition au pouvoir met en avant le fait que la Constitution n'a pas été violée par cette nomination. Le MSM, le parti présidé par le fils Pravind, figure dans cette coalition. Il est à la tête de la majorité à l'Assemblée et peut légitimement légitimement être nommé Premier ministre d'après la constitution mauricienne. Mais pour l'opposition, le parti MSM seul ne compte que 32 membres, donc loin d'être le principal parti politique à l'Assemblée nationale. Et c'est ce point particulier que l'opposition met en avant pour contester la nomination de Pravin Jugnauth.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïmin. À la présentation, Nathalie Barge. La CAN dans quelques minutes avec Nicolas Pineau, un Sénégal, Algérie, Zimbabwe, Tunisie pour une place en quart de finale. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à tous et à bientôt.